Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 3. Est-ce que vous vivez ce chant que vous venez de chanter ? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Vous êtes sûr de voir Jésus bientôt ? Amen. Quand il reviendra, quand vous partirez, peu importe, avez-vous l'assurance d'être face à face, vous retrouver face à face avec Jésus et de le voir, non pas pour avoir peur de ce qu'il va vous dire, mais dans l'assurance de son accueil. Oui ? Amen. Oui, bon, j'espère. Hein. Il est riche, Dieu ? Est-ce qu'il est riche, Dieu ? Oui, vous êtes ses enfants. Pour la plupart, peut-être, quelqu'un n'est pas encore son enfant. J'aimerais vous dire qu'il y a encore une opportunité pour vous ce soir d'accueillir le Seigneur Jésus dans votre cœur, de faire la paix avec Dieu, de demander pardon pour vos péchés. Et puisque Jésus est mort à la croix pour vos péchés, pour nos péchés à tous, vous pouvez en être pardonné et en être purifié, avoir votre place au ciel avec lui. Et pour tous les autres qui avons déjà fait cette démarche, nous savons que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes riches. Nous sommes aussi riches que Dieu. Puisque tout ce qui est à lui est à nous, tout ce qui est à nous est à lui. C'est mélangé. Merci Seigneur. Voilà, nous avons des grandes promesses de la part de Dieu. La parole de Dieu est riche en promesses. Et ce soir, j'aimerais en partager une plus particulièrement avec vous. Celle-ci, donc Proverbes chapitre 16 et verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Il n'y avait pas beaucoup d'amen là. On le relit alors. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Merci Seigneur pour cette promesse que si je recommande à l'Éternel mes œuvres, mes projets réussiront. Avez-vous pour projet de réussir votre vie ? Waouh, il n'y a pas beaucoup d'optimistes hein, ce soir. Est-ce que vous avez comme projet, par exemple, de réussir votre vie ? Oui, moi aussi. Pardon ? Il faut le demander aux jeunes, nous dit Norbert. Oui, je crois que les jeunes, ils aimeraient réussir leur vie. On veut tous, on a pour projet de tout faire pour réussir notre vie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme projet ? Dites-moi. Pardon ? Arriver jusqu'au bout, oui. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alors c'est vrai, on a pour projet de veiller et prier pour arriver jusqu'au bout. Ça c'est vrai. Quoi d'autre ? De grandir dans le Seigneur, ils sont spirituels ce soir les gens. Une jeune fille, un jeune homme pourra dire j'ai pour projet de me marier. C'est pas vrai ? J'ai pour projet, je sais pas moi, de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai pour projet... Eh bien, d'aller voir ceux qui sont en manque de nourriture pour partager ce que Dieu m'a donné. On peut avoir toutes sortes de projets. Il n'y a pas besoin ce soir de dire que des projets très 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 bibliques, on va dire. On peut avoir différents projets. Se marier, par exemple. Et ce texte-là nous dit que si je recommande à l'Éternel mes œuvres, mes projets réussiront. Voilà la promesse pour les enfants de Dieu. Vous croyez aux promesses de Dieu ? Oui, des fois on est un peu timide, hein, sous prétexte d'humilité, on dit oui, c'est vrai, mais on va pas les chercher ces promesses, on veut pas trop les vivre, hein. On se prive de certaines choses, des fois par incrédulité, ou par fausse humilité, par peur, je sais pas. Certaines choses nous privent de rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a une promesse, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire, recommande chaque œuvre de ta vie, qui va dans la direction d'un projet, si je veux me marier, Seigneur, tu vois cette œuvre. Par exemple, de chercher quelqu'un qui est sérieux, spirituellement parlant, c'est une œuvre. Que de veiller, de faire attention à mes fréquentations aussi. Chaque œuvre, tout ce que je vais faire, Seigneur, chaque prière, une œuvre, une prière, c'est une œuvre. Chaque œuvre, chaque action dans ma vie que je vais faire, je veux te la recommander pour que tu m'approuves, pour que tu me conduises, pour que tu me guides, afin que ce projet que j'ai réussisse. Et qu'il soit dans ta volonté. Ça, c'est important, d'être dans la volonté de Dieu. Avez-vous des projets ? Oui. Quelle sorte de projet ? On l'a vu. Avez-vous pour projet de réussir votre vie ? Tous. Alors la solution, c'est de recommander chacune des œuvres de notre vie au Seigneur qui est tout-puissant. Ça aussi, c'est une promesse aussi pour nous, en quelque sorte, de savoir que Dieu est tout-puissant. Parce que ça veut dire que quoi que je lui demande, si c'est dans sa volonté, il peut le faire. Et il va sûrement le faire s'il le veut. Si c'est dans sa volonté. Alors c'est très très simple, mais est-ce qu'on le fait ? De recommander toutes nos œuvres par rapport au projet que nous avons dans notre cœur. Est-ce qu'on le fait ? C'est simple, mais on le fait presque jamais. Soyons honnêtes. Quand vous partez en vacances, vous avez projet d'arriver à bon port. Est-ce qu'on prie à chaque fois avant de partir? Ben oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien des fois, on part. Moi, ça m'est arrivé de commencer à partir et de dire, mince, j'ai oublié de prier avant de partir. De recommander ce voyage en famille. On est tous montés dans la voiture. Allez, on prie ensemble une dernière fois. On va demander au Seigneur de nous conduire. L'œuvre de rouler, on va la remettre dans les mains du Seigneur pour que le projet aboutisse, que le projet réussisse. Et là, c'est un exemple peut-être simple, un départ en vacances, mais pour tout dans notre vie, ça doit être le cas. Qu'est-ce que c'est que de recommander à Dieu quelque chose? C'est demander la bienveillance, la bénédiction et la protection de Dieu sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ça, recommander. Recommander quelque chose à Dieu, c'est lui demander de bénir, de conduire et de protéger quelqu'un ou quelque chose. Si je recommande mes enfants dans les mains de Dieu, je lui demande de les bénir, de les protéger et de les garder. C'est ça, recommander. N'importe quel dictionnaire vous le direz. Recommander. Et on va voir que c'est hyper, très, très, très important de recommander chacune des œuvres de nos vies pour que nos projets aboutissent, pour que notre vie soit réussie, pour que notre vie chrétienne soit épanouie. Et je vous invite à lire, à ouvrir avec moi encore dans Genèse, au chapitre 14 et au verset 17. Quelquefois, on lit la Bible et on passe très très vite, très très vite. Mais si on s'arrête et si on médite, on découvre qu'une petite prière qu'on aurait négligée à la première lecture, en fait, a eu un grand impact dans la vie d'un homme ou d'une femme. Genèse, chapitre 14 et verset 17. Je vous remets dans le contexte. Lot et Abraham se sont séparés parce qu'ils avaient de trop grands troupeaux et pour ne pas se disputer, Abraham a laissé le choix à Lot d'aller où il veut. Il va choisir la plaine où il y a Sodome et Gomorre. Il va étendre ses tentes, sa propriété jusqu'à la porte de la ville de Sodome. Et il y a des rois ennemis à Sodome et Gomorre qui vont arriver et qui vont emporter toutes les richesses de la ville de Sodome, de Gomorre, de toutes sortes d'autres villes, d'autres pays, d'autres rois. Et en même temps, ils vont embarquer Lot et sa famille. Abraham va l'apprendre, quelqu'un va arriver, quelqu'un qui s'est échappé va venir vers Abraham et va lui dire « Voilà Abraham, toi l'hébreu, il y a ton neveu Lot qui a été emporté par les ennemis de Sodome et de Gomorre. » Et puis alors Abraham va commencer à armer 318 personnes, il me semble, plus de 300 personnes, il va les armer, les équiper, ils vont partir à la poursuite des 5 rois ou des 4 rois qui sont venus faire la guerre et ils vont les battre et ils vont ramener tout cela au pays. Au bon endroit, ils vont récupérer toutes les personnes qui ont été emmenées captives et tous les biens. Abraham va remporter la victoire. Et il nous est dit là, au verset 17, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On voit que là, à ce moment-là, Melchisédek va bénir Abraham. Il va recommander Abraham dans les mains de l'Éternel. Il le bénit au nom du maître du ciel et de la terre. Et regardez juste après. Est-ce qu'Abraham, il a été béni? Vous le savez ou pas? Est-ce qu'Abraham, il a été béni de Dieu? Bien sûr. Et juste après, on voit quand même au verset 21, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, etc. » Voyez, on pourrait dire ça, on ne comprend pas. Et je suis sûr que là, tant que je ne vous ai pas expliqué, vous pouvez dire oui, on a lu qu'après, Abraham a répondu au roi de Sodome. Mais quand on regarde la manière dont Abraham répond à ce roi, on voit qu'il s'inspire exactement de la prière de Melchisédek, maître du ciel et de la terre. Et moi, je comprends par cela que dans ce texte, Abraham a été frappé par le message, par la prière, par ce rendez-vous avec cette personne, Melchisédek, roi de paix, roi de Salem, dont on n'entend plus parler, sauf d'un hébreu. Qui c'est cette personne? D'où elle vient? Pourquoi elle est venue? Abraham lui a donné la dîme de tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet entretien? Pour nous, c'est très très court, mais en vérité, je vois qu'il y a eu un moment marquant. Et quand Melchisédek a prié, a recommandé Abraham dans les mains de l'Éternel et l'a béni, je crois qu'Abraham a été touché et ça l'a aidé à avoir la bonne attitude après, face au roi de Sodome. Et on voit que c'est une conséquence un petit peu de ce rendez-vous, de ce contact avec ce sacrificateur du Dieu Très-Haut, cette personne qui connaissait l'Éternel, mais qui sait? Certains disent que c'était Jésus qui est passé par là. On ne sait pas, hein? C'est une hypothèse, c'est peut-être une christophanie, on ne sait pas. En tout cas, ce rendez-vous a été marquant et la prière, la bénédiction, la recommandation a été un moment béni pour Abraham qui l'a aidé dans un moment de tentation à résister. Parce que le roi de Sodome, quand on voit ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorre après, on réalise que ce n'était pas un bon roi. Et Abraham a su lui dire, je ne veux rien de toi, même pas un fil, ni un cordon, rien, rien du tout. De peur que tu dises, j'ai enrichi Abraham. Et nous, quelle attitude on a face à ce monde? Est-ce qu'on lui dit, bon, je veux bien quelques petites choses, mais après ça non, c'est trop sale, ça oui, il n'a rien voulu du monde. Rien. Moi, je fais confiance au Seigneur. Je fais confiance à Dieu et c'est lui qui me bénit. C'était simplement pour imaginer un peu l'importance de recommander chaque œuvre de notre vie pour espérer avoir un projet qui réussisse. Alors recommander quelqu'un, recommander quelque chose, recommander notre propre vie, ça demande trois choses. Première chose, de l'humilité. Demander la bénédiction à Dieu sur nos vies, sur quelque chose, sur un projet, sur des œuvres, ça demande de l'humilité. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour lui demander son secours. Tant que je n'ai pas conscience que sans Dieu, je ne peux rien faire, et même ce que je vais faire sans lui, ça ne sera pas inspiré, ça n'aboutira pas à quelque chose qui dure éternellement, je ne peux rien faire. Ça ne sert à rien. Et je ne vais pas demander au Seigneur son secours. Pourquoi on demande si peu de choses au Seigneur? Des fois, on dit « Ah, mais je ne veux pas trop le déranger », comme si Dieu, on pouvait le déranger. Comme si Dieu, il était trop pressé, trop occupé. Mais je crois que c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on a absolument besoin de l'Éternel. Est-ce qu'avant d'aller au travail, on demande au Seigneur « Bénis-moi, aide-moi à avoir un bon témoignage à mon travail ?» Parce que sans toi, je risque de m'emporter, sans toi, je risque de me laisser aller, je risque de tomber dans une tentation. Est-ce que dans la manière dont j'éduque mes enfants, je pourrais multiplier les exemples, je ne veux pas prendre trop de temps pour ça, mais est-ce que je réalise mon besoin de Dieu dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que je réalise que dans chaque pas que je fais dans ma vie, j'ai besoin de demander au Seigneur de bénir ces choses et de me protéger? C'est ça le message ce soir de Dieu. C'est tout simple. Demandez au Seigneur, chaque moment, chaque instant de votre vie, pour chaque action, que Dieu bénisse et protège vos pas. Deuxième chose qu'il faut, et la première, donc, c'est l'humilité, pardon. Deux textes que j'ai relevés, on connaît très bien ce texte, il dit « L'humilité précède la gloire ». C'est dans Proverbe 15, 33. Et l'autre, « L'orgueil précède la chute », Proverbe 16, 18. Ces deux versets qu'on doit comprendre dans leur entier. Ils sont séparés, ils sont alliés à deux choses. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je ne peux pas avoir d'humilité si je n'ai pas de la crainte de l'Éternel. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Demandez au Seigneur, aide-moi à ne pas être arrogant, croire que j'ai tout compris, croire que je sais tout. Deuxième chose donc que j'ai dit, c'est la foi. Je ne peux pas demander au Seigneur, je ne peux pas lui recommander ma vie, mes projets, mes œuvres, tant que je ne crois pas et je n'ai pas confiance en lui. Si je veux pouvoir m'adresser à Dieu, il faut que je le fasse avec foi, avec confiance. Il y a un texte dans Marc 11 qui dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Jésus a eu besoin d'apprendre à ses disciples d'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans Marc chapitre 11, verset 22. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et quelquefois, on est là, on prie, on persévère dans la prière. Est-ce que c'est bien de persévérer dans la prière? Moi, je crois. Il est dit, persévérer jusqu'à ce que nous obtenions, par exemple. Mais je crois qu'il y a des fois où on prie, mais au bout d'un moment, on sait que Dieu a entendu. On sait que Dieu a déjà répondu avant de voir le fruit. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Il m'est arrivé des fois, j'avais un problème financier à un moment, et j'avais une voiture toute tuning, tout ça, etc. Et je voulais plus la garder. J'avais des problèmes financiers, je disais, mais il manquait de l'argent, et je disais, Seigneur, tu vois, je veux mettre cette annonce, ça fait tant de temps, ça fait tant d'années que j'ai mis l'annonce, elle ne se vend pas, Seigneur, fais quelque chose, aide-moi, et puis, s'il te plaît, fais qu'elle se vende. Et j'ai prié, et puis je persévérais tout le temps, parce que je croyais qu'il fallait prier un maximum. Puis au bout d'un moment, je disais, mais si t'es pas exaucé, c'est parce que tu pries pas assez. Alors je priais matin, midi, soir, pour la même chose, pour que ma voiture se vende. Et puis je persévérais, et puis je croyais que c'était pas assez, alors j'allais encore plus. Et puis je croyais qu'il fallait multiplier le nombre de prières. Et quand j'arriverais au bon quota, j'allais être exaucé. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais arrête, Jérémie, arrête, ça sert à rien. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois que je te présente ce sujet. Si tu veux qu'elle se vende, qu'elle se vende. Si tu veux m'aider dans mes finances, tu m'aides dans mes finances. Je n'étais pas marié, j'étais célibataire. Et je dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Et j'arrête de te prier pour ça. Je reste en paix. Une semaine, deux semaines, et puis au bout d'un moment, elle s'est vendue, toute seule. Mais je savais que Dieu avait entendu. Un jour, il y avait un autre pasteur qui était là et disait, Seigneur, tu vois, telle personne est malade et a un cancer, hein. Une de ses brebis, une personne de l'église était atteinte d'un cancer et il priait. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, peut-être que si on est plusieurs, on va être exaucés. Et il demande à un frère de l'assemblée, il dit, on va prier toute la nuit, on va veiller toute la nuit pour prier. Et puis ils commencent à se mettre tous les deux. Après une réunion, un soir, ils se mettent à part dans le bureau du pasteur. Et puis ils commencent à prier, faire vent, etc. Puis ils disent, on prie peut-être pas assez fort. Alors ils prient fort et ils prient tout ça. Puis au bout d'un moment, il y a le frère qui commence à lui dire, pasteur, arrêtons. Ça y est, Dieu a répondu. Pasteur, il regarde. Il dit, qu'est-ce que vous me racontez? Il dit, oui, je vous dis, je sais dans mon cœur que Dieu a répondu. Dieu a entendu, Dieu a répondu. Ah bon? Vous êtes sûr? Moi, ça ne me dérange pas de veiller. Non, je vous dis, ça ne sert à rien. Dieu a répondu. Bon. Le pasteur a laissé la chose comme ça. Il a dit, bon, ben d'accord, on va rentrer. Il se passe une semaine. Et puis au bout d'une semaine, la personne, instantanément, dans une nuit, s'est mise à crier et a été guérie. S'est mise à crier, je sens plus mon mal. Et était guérie, était en phase terminale. La personne avait été guérie. Et ce frère avait été convaincu que Dieu avait attendu. Je crois que des fois, il nous faut être convaincus que Dieu entend nos prières. Ne pas oublier qu'il les entend. Et recevoir, en même temps que je lui confie mon problème, que je lui fais connaître mes soucis, c'est ce que dit le texte, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Mais la paix doit rentrer. En même temps que je prie, la paix doit rentrer. Si je n'ai pas de paix qui vient, c'est que je ne fais pas confiance, je ne prie pas avec foi. D'accord, vous comprenez? Je ne dis pas qu'il ne faut plus prier. Je dis qu'en tout cas, quand on prie, il faut aussi s'attendre à recevoir la paix de Dieu. La foi, vous le savez, c'est la confiance en Dieu. Une pleine confiance en Dieu. C'est pas imposer des choses à Dieu, crier « Oui, il va être guéri !» et puis le dire tellement fort ou avec tellement d'assurance que ça va être fait. C'est pas ça. La foi, c'est une pleine confiance en Dieu. Et j'aimerais vous lire une anecdote concernant Alexandre le Grand. Il est dit ceci, « Alexandre le Grand était tombé gravement malade. » Le mal était si violent qu'aucun de ses nombreux médecins avait réussi même à calmer les douleurs. Un seul, Philippe, ne crut pas que le mal était inguérissable. Il affirma à Alexandre que lui connaissait une potion qui triompherait certainement de la maladie. Pendant qu'il la préparait, un messager apporta au roi une lettre l'avertissant que Philippe voulait l'empoisonner. Le roi la lut et la plaça à son chevet. Peu après, Philippe entrait, apportant le remède. Alexandre lui donna d'une main la lettre, et de l'autre saisit la coupe et avala d'un trait le breuvage sans que son visage exprimât ni inquiétude ni soupçon. Sa confiance en Philippe n'avait pas été ébranlée par la dénonciation calomnieuse. Elle ne fut pas trompée. Le remède, très fort, le laissa briser pendant plusieurs jours, mais triompha de la maladie, et Alexandre recouvra la santé. Le roi avait cru en Philippe, et il avait eu raison. De même, nous sommes tous atteints d'un mal dont personne, sauf le Christ, ne peut nous guérir. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, dit Hébreux 5, 27. Vous voyez, ce roi était malade. Quelqu'un vient lui dire, il veut t'empoisonner, c'est mauvais pour toi, ne lui fais pas confiance. Mais le roi connaissait cet homme, Philippe, son ami. Il présente la lettre, il boit le breuvage, parce qu'il fait confiance. Et est-ce que le nombre de fois où on a entendu que Jésus n'avait pas guéri, que Dieu n'était pas intervenu, est-ce que le nombre de fois où des gens vous ont dit que ça servait à rien la prière, est-ce que le nombre de fois où on vous a dit que faire confiance en Dieu, ça valait pas la peine, ont atteint votre foi? Est-ce qu'ils ont diminué votre foi ou est-ce que vous croyez encore que Jésus guérit? Est-ce que vous croyez que Jésus est fidèle à sa parole et que celui qui s'y appuie véritablement verra l'exaucement de cette parole dans sa vie et dans son cœur? Moi, je veux être de cela. Je veux avoir l'assurance que quand je recommande mon sort à l'Éternel, quand je recommande mes œuvres à l'Éternel, mes projets réussissent. Et bien, pas ceux que j'invente non plus, c'est sûr. Ceux qui sont conformes à sa volonté. Et je veux garder la foi. Et je veux combattre pour la foi, nous dit aussi un texte. Parce qu'il y a des gens qui veulent détruire notre foi. Et il y en a un qui veut détruire notre foi. C'est le diable. Et il dit, ne prie pas. Ne lui demande pas de te bénir aujourd'hui. Ne lui demande pas de te garder aujourd'hui. Ne lui demande pas de t'utiliser pour être un témoin aujourd'hui. Ne lui demande rien. Et on en arrive à ce verset que Jésus dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez plus. Ou alors vous demandez mal. Combien de fois on passe la journée sans parler au Seigneur? Sans lui recommander chacune de nos actions? Je dois progresser là-dedans. Premièrement, le Seigneur me parle, mais il nous parle à chacun. Il parle à l'église de Sainte-Anne ce soir et il nous dit, progressons là-dedans. Recommandons chaque jour, chaque instant, nos œuvres à l'Éternel pour que ses projets à lui aussi réussissent. Parce que le projet de Dieu, c'est de sauver le monde. Et il a besoin que pour chacune des œuvres que nous faisons dans ce but, que le monde soit sauvé. Que soit l'évangélisation, le témoignage, le bon comportement, les prédications, les chants, tout soit recommandé au Seigneur. Lui soit présenté pour qu'il puisse le bénir et nous garder, nous protéger de nous égarer. La troisième chose découle de la foi. Puisque dans le contexte de Marc, juste après il est dit, et si pendant que vous priez, vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Et Dieu vous pardonnera vos offenses. Le contexte de la foi, je ne peux pas avoir de foi exaucée si je n'ai pas le pardon dans mon cœur, si je ne choisis pas de pardonner tout ce qu'on m'a fait. Peut-être dans votre vie, on vous a fait du mal, peut-être que dans votre passé, peut-être que dans votre présent, tout à l'heure, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a offensé, vous a même ignoré peut-être. C'est peut-être ça qui vous a fait du mal. Et dans votre cœur, vous êtes là et vous en voulez un peu à la personne. Choisissez ce soir, maintenant, de pardonner. Parce que peu importe la grande foi que vous aurez, si vous ne choisissez pas de pardonner et de poser le bâton, de poser les armes, vous ne pourrez pas être exaucé. Et la chose aussi, le contexte qui suit, c'est l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Et quand on voit l'histoire du centenier, on voit qu'aucune autorité n'est donnée par Dieu s'il n'y a pas de soumission. Et voilà le troisième chose qu'il nous faut pour recommander à Dieu nos œuvres, afin que nos projets réussissent. C'est de la soumission et de l'obéissance à Dieu. Et c'est terminé, je m'arrête là. De l'obéissance et de la soumission à Dieu. Parce que quelquefois, Dieu va répondre en nous donnant sa paix. On recommande notre sort et Dieu, comme je l'ai dit, il nous donne sa paix. Il approuve ce qu'on lui a demandé. Il dit, c'est bien, tu es dans la bonne voie. Et il nous conduit. D'autres fois, il nous répond, il nous dit, oui, mais tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Quelquefois, on dit, Seigneur, donne-moi d'être un témoin pour toi aujourd'hui. Et le Seigneur va nous répondre en nous disant, oui, mais lis d'abord tel verset. Lis-le bien, souviens-t'en. Celui que tu as lu tout à l'heure, rappelle-t'en, parce qu'il va t'être utile quand tu vas devoir témoigner. Quelquefois, Dieu nous dit des choses à l'avance, nous prépare nos cœurs. Des fois, on le voit, on ne le voit pas. Mais le fait qu'on recommande notre sort à l'Éternel, si on est soumis, quelquefois Dieu va nous dire, oui, vas-y, je vais te bénir, je vais te protéger, mais toi, il va falloir que tu fasses comme ça, comme ça. Et d'autres fois, Dieu va dire, non, Tu me demandes de bénir, tu me demandes de te protéger dans telle voie, dans telle œuvre, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis pas d'accord. Et ça va nous demander, si je recommande mes œuvres à l'Éternel, aussi de la soumission. Apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Tous mes projets ne sont pas bons. C'est comme ça. Vous savez ce que moi j'aurais comme projet, moi ? Vous allez rigoler. Moi j'aime vraiment la ferme. Les animaux, tout ça. Hein ? C'est super, hein ? J'aime, j'ai des poules, des lapins, j'ai toutes sortes de choses. Il y a quelques heures, je réfléchissais, je dis, tiens, au lieu d'avoir un chien, pourquoi je n'aurais pas un cochon ? Vous voyez ? Mais je vous parle, je vous ouvre mon cœur, là. Vous ne moquez pas trop, hein ? Parce que c'est vrai, un cochon nain, hein ? Attention. Mais oui, moi j'aime vraiment la ferme. Et je sais que si ça pourrait être un beau projet, dire, allez, on va ouvrir une ferme, allez, un jour. Si, mettons, Dieu m'envoie dans un pays, la campagne, pour m'occuper d'une église qui est dans la campagne, admettons, allez, moi, Stéphanie, elle travaille pas, elle n'a pas d'heure d'horaire, donc elle pourrait s'occuper un peu de la ferme, etc. Et puis on pourrait l'ouvrir, distribuer des évangiles. Vous savez comment on fait des beaux projets, on mêle le spirituel à ce qui nous plaît. Et puis aller de distribuer des évangiles, puis dans la grange ou un endroit grand, on pourrait faire des réunions, vous voyez, et puis etc. On pourrait monter des grands projets, un gîte, etc. Mais tout projet doit être recommandé à l'Éternel. Et quand on a l'humilité, quand on a la foi, la confiance en Dieu, on sait qu'il va nous donner ce qui est bon pour nous. Et quand on est prêt à se soumettre et à lui obéir, quelquefois on dit, ça c'est un projet humain, je ne suis pas mauvais en soi, mais ce n'est pas comme ça que je veux t'utiliser. Et il faut apprendre à obéir à Dieu. Il faut apprendre à se soumettre. Beaucoup de personnes s'égarent comme ça. Beaucoup de mouvements se sont égarés comme ça. Quand on fait un peu d'histoire, on regarde l'histoire de l'Église, on regarde que beaucoup de mouvements se sont égarés quand ils ont commencé à rentrer dans la politique. Ils sont mêlés à la politique et à partir de 1500, j'ai regardé ça à partir de 1500, après Jésus-Christ, 1500, une dizaine de mouvements ont commencé à se mêler des affaires de politique. Et tous, ils ont périclité. Pourtant, ça part d'un bon sentiment. Arriver à une place élevée pour pouvoir avoir de l'influence, pour emmener quand même une certaine sainteté dans le pays, ça pourrait être bien, c'est un bon projet. Mais si ce n'est pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui vous le demande et que vous y place, ça sera beau être un beau projet, mais vous n'allez pas réussir dans le grand projet de Dieu, qui est de sauver le monde et de nous utiliser pour ça. De l'obéissance et de la soumission. Alors on va prendre un exemple juste pour ce troisième point. Dans 2 Samuel, au chapitre 5, chapitre 5, et verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Peratim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. » Voyez, je crois que quand on recommande nos œuvres à l'Éternel, c'est aussi apprendre à lui demander son avis. Je viens de le dire. Et vous avez vu ce que Dieu a répondu. Il a dit « Monterai-je ? » L'Éternel lui dit « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Quelquefois, Dieu répond « Ok, vas-y, j'approuve. » Fonce, entre guillemets. D'autres fois, il donne des conseils. Il dit oui, mais tu vas faire comme ça. Et regardez le verset après. Verset 22, pardon. Les Philistins montèrent de nouveau. Ça recommence. Même situation. Il pourrait dire, j'ai déjà eu une première réponse de Dieu. Mais non. Il est dit, ils se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, hâte-toi. Alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Voyez, deuxième attaque, même contexte à peu près. David, il veut faire la même chose, mais il a la sagesse de dire pour chaque œuvre, pour chaque occasion, je vais recommander mon sort, je vais recommander mes œuvres à l'Éternel. Est-ce que je vais y aller? Et le Seigneur lui dit non, pas par là. Tu vas les contourner par derrière. Et on voit que à cause de cette stratégie que Dieu lui avait donnée, excusez-moi pour le nom, mais c'est ça, à cause de ces consignes que David a respectées, eh bien David a encore été victorieux. Vous vous souvenez ce qu'a fait Josué un jour quand des gens se sont déguisés? Ils sont venus, ils ont mis des vieux vêtements déchirés, ils ont pris des pains vieux, moisis, etc., des choses un peu usagées, et ils sont venus vers eux, vers le peuple d'Israël, ils ont rencontré les chefs, ils ont commencé à dire, voilà, on vient de très, 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 très loin, et puis on a appris tout ce que vous avez fait, on sait que Dieu est avec vous, alors on voudrait traiter la paix, faire un traité de paix, faire une alliance avec vous. Et les chefs ont dit, ben, puisqu'ils sont loin, c'est pas le pays que Dieu nous a donné, on peut faire alliance. Et ils font alliance, ils font une promesse. Ils font une promesse, jamais on ne vous attaquera. On ne vous fera pas de mal. Vous voyez? Et au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, d'un coup, au bout de 3 jours, ils réalisent que c'est des voisins. Des gens qu'ils auraient dû, d'après l'ordre de l'Éternel, vaincre, battre et faire partir. Vous voyez? Et ils se sont retrouvés coincés parce qu'ils avaient fait une alliance qu'ils devaient respecter devant l'Éternel. Et Josué, parce qu'il est marqué qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel, ils se sont trouvés mal. On le lit dans Josué, chapitre 9, verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée de l'Éternel leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béoroth et Kirjath-Jearim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Alors ils ont essayé d'arranger la chose. Ils leur ont demandé de couper du bois et de leur apporter de l'eau. Ils les ont un peu mis sous la servitude. Mais quand on sait tout ce qu'ils ont fait, ces Gabaonites, etc., ces personnes de mal et vers quoi ils ont poussé le peuple dans la suite, c'est un peu à cause d'eux qu'ils se sont tournés vers les idoles, on réalise qu'ils auraient mieux fait de consulter l'Éternel. Et dans Actes 16, je vous le lis, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils, avec un pluriel, c'est Paul et Timothée, traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voyez, même Paul, puisqu'il se tenait dans la prière, vous savez, quand il est dit « l'Esprit leur dit », c'est qu'ils sont en train de prier et en train de jeûner. On le voit dans Actes. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais on voit qu'ils demandent à Dieu de les conduire, il leur demande. Et puis là, l'Esprit ne leur a pas permis déjà d'aller en Asie, par exemple. Après, ils veulent aller rentrer en Bithynie. Encore une fois, l'Esprit ne le leur permit pas. Quelquefois, le Seigneur répond « non, cette œuvre, c'est pas la bonne manière pour arriver au bon projet d'évangéliser l'Asie, par exemple. » puisque c'est ce que Paul a fait avec Timothée puis avec d'autres disciples. Vous voyez, quelquefois Dieu dit non. Et pour toutes ces choses, il nous faut apprendre à avoir de l'obéissance et de la soumission à Dieu. C'est tout simple. Et j'ai rien appris ce soir. Je vous ai fait que des rappels. Mais simplement retenons ceci. C'est que Dieu veut bénir l'assemblée. Dieu veut prendre soin de l'assemblée. Dieu veut la guider. Dieu veut la conduire, que ce soit pour Balma, que ce soit pour d'autres projets. Peu importe. Pour la rentrée, pour les églises qu'on pourrait soutenir, pour la formation, etc. Pour tout, le Seigneur voudrait conduire, voudrait bénir. Mais il nous demande à chacun de recommander chacune des œuvres, chacune des actions que nous ferons pour que les projets, les nôtres bien sûr, qui nous viennent directement de l'Éternel, puissent réussir et qu'on soit utile dans ses mains. D'accord ? On se souviendra de ça ? Je termine avec ce verset. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Seigneur, ces simples paroles nous sont salutaires, puisque s'ils les avaient écoutées, Seigneur, à l'époque de Josué, s'ils avaient compris qu'il fallait te recommander chaque chose, te demander même des choses, s'il fallait te consulter pour avant de faire quoi que ce soit, ils auraient pu éviter des écarts, des écueils. Ils auraient pu, Seigneur, sûrement passer à côté de bien des mots. Nous-mêmes, Seigneur, nous voulons gagner du terrain. Nous voulons être une assemblée qui prospère, non pas selon un évangile de prospérité, mais vraiment selon ton évangile à toi. Puisque tu dis que tu veux bénir, tu dis que tu es le Dieu de la multiplication, tu n'es pas un Dieu de division. Et c'est le diable, tu dis que la division vient du diable, vient du fait qu'on est charnel. Alors nous voulons vraiment progresser et nous avons besoin de ton Saint-Esprit, de ton aide, de ton secours pour réaliser encore cette parole que tu nous dis. Recommande tes œuvres et tes projets. Réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Tu es l'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Nous attendons à ton retour parce que tu dis que tu reviens bientôt. Et nous voulons être une église prête, une assemblée qui se tient à la brèche, qui est devant toi et qui te recommande toutes choses avant de les faire pour être toujours approuvé de toi et béni comme David l'a été dans ces deux occasions où il t'a consulté avant de faire les choses et il a été amené jusqu'au bout dans la victoire. Nous voulons aller de victoire en victoire. Nous voulons croire encore aujourd'hui que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui baptise dans le Saint-Esprit. J'ai soif, Seigneur, soif de voir encore des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, être remplis de toi, remplis du Saint-Esprit, baptisés dans ton Saint-Esprit, Seigneur, plongés dans ton esprit et plein de toi, Seigneur, comme une bouteille plongée dans la mer ou plongée dans l'eau qui se remplit. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons garder en tête que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes voués à l'échec. Sans toi, nous allions en enfer. Mais grâce à toi, grâce à ton sacrifice à la croix, tu nous ouvres une porte pour le ciel, à condition que nous continuions et que nous demeurions jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, dans tes voies, Seigneur. Aide-nous pour ces choses, conduis-nous et garde notre pasteur aussi. Amen. 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 Merci, Seigneur.